de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Tokyo Disney Resort rouvrira le 1er juillet. La réouverture des activités touristiques en Arabie Saoudite. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative rappelle le protocole de santé avant d'ouvrir la destination. Un membre de la force de maintien de la paix indonésienne a été tué au Congo. L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande construisent la solidarité pour préparer une nouvelle normalité. Le gouvernement anticipe l'explosion potentielle des incendies de forêt et de la terre en août et septembre. Et consultation pour l'après-crise de la COVID-19, Sarkozy et Hollande reçus à l'Élysée. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. Tokyo Disney Resort rouvrira le 1er juillet. Oriental Land, la société de gestion de Tokyo Disney Resort, a déclaré mardi que le parc rouvrirait le 1er juillet, mais en limitant le nombre de visiteurs pour empêcher le coronavirus. Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea sont fermés depuis fin février en raison de l'augmentation des cas de coronavirus à Tokyo. Outre Tokyo, les cas du virus qui cause COVID-19 apparaissent également dans les préfectures environnantes. Comme cité par Reuters ces dernières semaines, l'économie a rouvert progressivement. Les visiteurs doivent d'abord commander un billet. À leur arrivée à la porte d'entrée, leur température corporelle sera vérifiée et ils devront porter un masque. Les sièges de performance seront également disposés de telle sorte que le public garde ses distances. La réouverture des activités touristiques en Arabie Saoudite. Le gouvernement de l'Arabie Saoudite a rouvert ses activités touristiques. Les résidents locaux ont bien salué, rapporté par Arab News mardi 23 juin 2020, le ministre saoudien du tourisme Ahmed Al-Khatib a déclaré qu'il avait lancé un programme de tourisme national en été.
Ahmad a déclaré que le gouvernement arabe était prêt à lancer un programme d'été et avait mené des recherches et entendu que 80% des résidents souhaitaient le tourisme intérieur en été plutôt que le tourisme international. L'autorité publiera également ce programme au public après son approbation par le ministère de la Santé et la Commission supérieure. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative rappelle le protocole de santé avant d'ouvrir la destination. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative entend également le chef de l'Agence du Tourisme et de l'Économie créative, Usnutama Kusubandio, a souligné l'importance de mettre en œuvre des protocoles de santé stricts avant de planifier la réouverture des destinations touristiques en période de la nouvelle normalité. Usnutama, dans sa déclaration reçue à Jakarta mardi, a déclaré que de nombreux hommes d'affaires du secteur du tourisme attendaient la publication des politiques de protocoles sanitaires dans le secteur du tourisme et de l'économie créative, parce que depuis 3 derniers mois, ils avaient été contraints d'arrêter leurs activités en raison de la pandémie de COVID-19. Il a notamment déclaré que le gouvernement prévoit actuellement d'ouvrir le tourisme naturel qui présente un faible risque de transmission. Il a rappelé que le plan d'ouverture du tourisme de nature doit être suivi de la mise en place de protocoles sanitaires stricts. On espère que le protocole de santé deviendra une référence pour toutes les parties dans la planification de l'ouverture du tourisme, y compris le tourisme de nature. Un membre de la force de maintien de la paix indonésienne a été tué au Congo. Un membre de la force indonésienne de maintien de la paix en poste à la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo serait mort. Le décès du sergent-major Rama Wahyudi a été confirmé mardi par la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi via son compte Twitter. La ministre des Affaires étrangères Retno a déclaré la plus haute appréciation à feu Rama Wahyudi pour son service dans le maintien de la paix mondiale, citant un rapport de la FP d'une source onusienne. Un membre des forces de maintien de la paix d'Indonésie a été tué et une autre personne a été blessée dans une attaque de milices lundi soir 22 juin dans l'est de la République démocratique du Congo. Leur patrouille a été attaquée à environ 20 km de la ville de Beni, dans la province du nord de Kivu. La ministre des Affaires étrangères Retno a déclaré que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait fermement condamné l'attaque contre la MONUSCO et demandé aux autorités congolaises d'enquêter et de traduire les auteurs en justice. Dans un communiqué, le chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, a condamné l'attaque qui, selon elle, a été menée par des membres présumés des ADF, c'est les Forces démocratiques alliées, un groupe armé bien connu dans l'est du pays. L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande construisent la solidarité pour préparer une nouvelle normalité. L'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande construisent la solidarité de la collaboration pour préparer une nouvelle normalité dans la région du triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande. Le directeur général d'Asie-Pacifique et d'Afrique du ministère des Affaires étrangères, Desra Percaya, dans une déclaration écrite reçue lundi, a déclaré qu'aucun pays au monde n'était assez fort pour affronter la COVID-19. La coopération internationale et régionale devait de plus en plus pertinente dans ces conditions. La déclaration a été prononcée à l'ouverture de la conférence virtuelle Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Triangle de croissance, IMTGT, Réseau universitaire, Uninet 9, imtgt.net sur le thème « Renforcer la coopération imtgt sur la pandémie de COVID-19 ». Le 22 juin 2020, les trois pays membres ont des territoires directement frontaliers. Il est donc important de renforcer la coopération dans la région de la pandémie de COVID-19. En outre, la coopération des IMTGT a beaucoup contribué au développement de l'économie sous-régionale, notamment une connectivité accrue, la valeur du commerce, du tourisme et des investissements. Le gouvernement anticipe l'explosion potentielle des incendies de forêt et de terre en août et septembre. La ministre des Environnements et des Forêts, Siti Nourbaya Bakar, a déclaré que le gouvernement avait anticipé l'explosion potentielle des incendies de forêt et de terre qui se produisent normalement entre août et septembre. Siti Nourbaya, après une réunion limitée avec le président du palais présidentiel de Jakarta, a déclaré mardi que son parti avait étudié à la fois le comportement climatique et le comportement des points chauds, ainsi que le moment de l'explosion des incendies de forêt qui se produisent habituellement en août. Siti Nourbaya a déclaré que sur la base de la surveillance dans le nord de Sumatra, Riau et Aceh, et dans certaines parties du nord de Sumatra, il y avait deux phases de crise. La première phase a lieu en mars-avril, tandis que la deuxième phase est juin-juillet, et ainsi de suite jusqu'à ce que le pic soit août-septembre. Selon la ministre, ce qui peut être fait avec cette condition est de faire de l'ingénierie de la pluie par la technologie de modification des conditions météorologiques sur l'analyse de l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique et réalisée par l'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie et soutenue par des avions de la force aérienne indonésienne. Consultation pour la pré-crise de la COVID-19, Sarkozy et Hollande reçus à l'Élysée. Dans le cadre des discussions censées l'aider à dessiner la fin de son quinquennat, le chef de l'État rencontre actuellement Nicolas Sarkozy. François Hollande se rendra à l'Élysée vendredi. Il consulte tous azimuts pour dessiner la fin de son mandat. Toute cette semaine, à l'orée du second tour des élections municipales, Emmanuel Macron multiplie les rencontres politiques à l'Élysée. Ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, sont du nombre. S'agissant de l'ancien patron des Républicains, il s'entretient ce lundi après-midi avec le chef de l'État. Quant à François Hollande, dont les relations avec son successeur sont notoirement fraîches, il est censé venir à l'Élysée vendredi. C'est ce qu'a rapporté BFM TV dans son site internet mardi le 24 juin 2020. Selon l'information reçue par BFM TV, l'ex-président socialiste viendra pour un entretien à partir de 13h15. Pas nécessairement pour le déjeuner. Entre-temps, Emmanuel Macron doit rencontrer les présidents des groupes parlementaires du Sénat mardi, puis ceux de l'Assemblée nationale jeudi. Ces rencontres se feront en présence respectivement du président de la Chambre haute, Gérard Larcher, et jeudi de Richard Ferrand. Bon, chers auditeurs, c'est tout le nouvel d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement La Révolution de Juillet en Autriche, le 15 juillet 1927. La Révolution de Juillet 1927, qui est également connue sous le nom d'incendie du palais de Vienne, était une émeute qui a commencé le 15 juillet 1927 dans la capitale autrichienne, Vienne. L'émeute a culminé lorsque les forces de police ont tiré sur des foules en colère, tuant 89 manifestants et 5 policiers. Plus de 600 manifestants et environ 600 policiers blessés. L'affrontement est le résultat d'un conflit entre le Parti social-démocrate autrichien et des alliances de droite, notamment des riches industriels et l'Église catholique. Un panneau d'avertissement pour les victimes a été installé à Wiener Zentralfriedhof, une plaque au palais de justice inaugurée par le président Heinz Fischer en 2007. L'autre information est sur la mort de Robert Wadlow le 15 juillet 1940. Robert Pershing Wadlow était la personne la plus grande du monde. Il était parfois surnommé le géant Dalton, tiré de sa ville natale Dalton dans l'Illinois. Robert a atteint 2,72 mètres de haut avec 220 kg de poids à sa mort. Son corps est grand et continue de grandir à l'âge adulte en raison de l'hypertrophie de l'hypophyse qui se traduit par une quantité anormale d'hormones de croissance, de sorte que la croissance continue même quand il meurt. De son vivant, Wadlow a toujours été la célébrité américaine la plus populaire. Il était si célèbre quand il a visité certains pays en 1936 dans le cadre du Ringling Brothers Circus et une tournée promotionnelle dans Turco en 1938. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 15 juillet 1955, la signature de la déclaration de Mainau. La déclaration de Mainau est l'une des deux pétitions sociopolitiques de lauréats du prix Nobel qui participent à la réunion des lauréats du prix Nobel, la réunion annuelle des jeunes scientifiques dans la ville de Lindau en Allemagne du 11 au 15 juillet. La déclaration de Mainau est un appel contre l'utilisation d'armes nucléaires. Initiée et compilée par les scientifiques nucléaires allemands Otto Hahn et Max Born, la déclaration a été distribuée lors de la 5e réunion de Nobel et présentée sur l'île de Mainau le 15 juillet 1955. La déclaration a été initialement signée par 18 lauréats du prix Nobel. En un an, le nombre de supporters a augmenté à 52 lauréats du prix Nobel. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Kau takkan engkau tahu. nafas ku berhembus sampai nanti ku mati. Oh, ku bangga karena engkau.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a organisé une formation du mentorat du village touristique pour les professeurs d'université. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a organisé la formation du mentorat du village touristique afin d'améliorer la qualité des gestionnaires et la communauté du village touristique pour les professeurs d'université. Le directeur du développement des ressources humaines du tourisme du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, Wisnu Bawatarunajaya, dans sa déclaration à Jakarta dimanche, expliquait que le programme de la formation du mentorat du village touristique tenu du 9 au 11 juillet 2020 est l'un des programmes développés par le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative dans le but d'accélérer le rythme de l'économie en secteur touristique qui n'est pas seulement orienté vers l'environnement urbain mais aussi villageois. Cette formation de mentorat, en plus d'être une forme d'application des politiques du gouvernement, est également une forme de préoccupation du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative pour développer des villages à travers du mentorat dirigé, mesuré et pouvant être bien contrôlé et faire référence au concept de durabilité. En outre, le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a coopéré avec le ministère des villages et du développement des régions défavorisées et de la transmigration et les universités pour créer un programme d'autonomisation communautaire du village touristique afin de mettre en œuvre l'un des rôles de Tridharma perguruan tinggi, à savoir le dévouement à la communauté. Wisnu Bawa a expliqué que le programme de coopération avait été mis en œuvre depuis l'an 2019 et a participé par 55 universités et cette année est participé par 109 universités réparties dans toutes les provinces d'Indonésie. Le programme de formation de tourisme de cette année est non seulement au niveau de la compréhension de base, de la sensibilisation au tourisme et des villages touristiques, mais introduit également de nouveaux protocoles liés au secteur du tourisme dans l'ère de la nouvelle normalité, à savoir la propriété, la santé et la sécurité environnementale dans les villages touristiques. Dans les activités de développement du village touristique, les participants reçoivent une formation pour améliorer la qualité et la compétence en développant des produits touristiques dans le village touristique sous forme d'exploration, d'emballage et de présentation. De sorte que dans le développement du village touristique, la communauté est souhaitée avoir l'unicité des caractéristiques basées sur la sagesse locale. L'application du concept de programme de mentorat est considérée comme une force motrice pour les villages qui souhaitent développer leur village d'être les villages touristiques qui doivent être aidés à accroître leurs compétences en termes de tourisme, d'excellents services, d'autodéveloppement, de leadership, de gestion et de technologie de l'information. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est avec un grand plaisir que nous vous rencontrons à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter le temple de Ratu Boko. Le temple Ratu Boko est un site ancien qui est un complexe de plusieurs vestiges de bâtiments situés à environ 3 km au sud du complexe du temple de Prambanan, à 18 km à l'est de la ville de Yogyakarta ou à 50 km au sud-ouest de la ville de Surakarta, dans le centre de Java, en Indonésie. Le site de Ratu Boko est situé sur une colline à une altitude de 196 mètres au-dessus du niveau de la mer. La superficie totale du complexe est d'environ 25 hectares. Ce site affiche des attributs comme lieu d'activité ou site de peuplement, mais sa fonction exacte n'est pas encore clairement connue. Le temple devrait avoir été utilisé par les gens au 8e siècle pendant la dynastie Shailendra ou Rakai Panangkaran du royaume de Medang Angdo Mataram. Le nom Ratu Boko vient de la légende de la population locale. Ratu Boko est une langue javanaise qui signifie littéralement « le roi des cigognes ». Le roi, qui est aussi le père de l'Euro Jonggrang, et devient le nom du temple principal du complexe du temple de Prambanan. Ce complexe de bâtiments est associé à la légende populaire locale, l'Euro Jonggrang. Différence avec d'autres vestiges antiques de l'ère javanaise ancienne qui se présentent généralement sous la forme d'édifices religieux, le site de Ratu Boko est un complexe résidentiel complet avec portail, pavillon, résidence, piscine et enclos de protection. Le site de Ratu Boko est situé sur une colline qui est plutôt haute. Cet emplacement indique la présence de sources et l'existence d'un système de gestion de l'eau pouvant répondre aux besoins quotidiens. La piscine est un héritage du système. Une autre particularité du site est un endroit à gauche de la porte qui est maintenant appelé lieu de crémation. Vous sautez et sa position, c'est un endroit pour effectuer quelque chose ou des activités. Le site de Ratu Boko a été signalé pour la première fois par Van Bokholz en 1790, qui indiquait qu'il y avait des ruines archéologiques sur la colline de Ratu Boko. 100 ans plus tard, la recherche a été menée sous la direction de F.D. Kabosh. De cela, il a été conclu que les ruines étaient les restes du palais. Le gouvernement Santang inclut désormais le complexe du site de Ratu Boko dans une autorité spéciale, ainsi que la gestion des temples de Borobudur et de Prambanan dans une société d'État appelée PT Taman Wisata Candi. En conséquence, le site de Ratu Boko est réorganisé en plusieurs endroits pour être utilisé comme lieu pour des activités éducatives et culturelles. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel. Demain, nous nous retrouvons avec un autre sujet plus intéressant encore. À très bientôt!
Tolong jauhkan nafsuku dari pesona awamu. Aku
aku terjangkit dan sakit, terjebak di ruang sempit. Aku melepasmu, terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku. Wujudmu ranjang ternyaman bagiku, henti bergumam hati, cabutlah biar tak membiru indraku. Susah payahku melepasmu, terlihatku palsu tanpa rasamu menjamahku, tanpa ragamu di sampingku, tanpa eratmu menggenggamku, tanpa arahmu lagi.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute!
Bonsoir à tous, on se rencontre encore dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est transportasi umum, ou en français, transport public. Vous êtes avec moi, Audrey. Bonne écoute. Le sujet d'aujourd'hui est transport public, transportation umum. L'objectif, après avoir fait écouter cette matière, les apprenants peuvent s'exprimer et se poser des questions sur les directions, l'emplacement, l'environnement et les activités quotidiennes. Les personnages, Kevin et Rama, lieu à l'auberge, situation, Kevin a demandé à Rama quel moyen de transport pouvait être utilisé pour se rendre sur le campus. Voici la conversation, bonne écoute.
Bagaimana cara naik Transjakarta?
Cek jalurnya.
Tunggulah di halte bus yang benar. Siapkan uang elektronik. Kalau bingung, tanya petugas.
Oke, terima kasih.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation ci-dessus, je vais vous présenter les expressions et les vocabulaires reliant au sujet d'aujourd'hui. Transportasi umum, transport public. Cek jalurnya. En français, vérifier le chemin. Tunggu. Attendre. Halte bus. Arrêt de bus. Uang elektronik. Monnaie électronique. Bingung. Confuse. Petugas. Officier. Bagaimana cara naik Transjakarta? Comment prendre le bus Transjakarta? Tunggulah di halte bus yang benar. Attendez à l'arrêt de bus correct. Siapkan uang elektronik. Préparez votre monnaie électronique. Kalau bingung, tanya petugas. En cas de confusion, demandez à l'officier. Chers amis, dans cette conversation, vous avez écouté Kevin a posé une question. Bagaimana cara naik bus Transjakarta? Comment prendre le bus Transjakarta? Dans cette phrase, il y a un mot d'interrogation. Bagaimana cara? Comment? Kevin utilise ce mot pour demander comment pour prendre le bus Transjakarta. Lorsque vous posez de telles questions, les réponses que vous pourriez entendre sont des indices que vous devez faire. Écoutons à nouveau la conversation entre Kevin et Rama. Bonne écoute. Kevin, Bagaimana cara naik bus Transjakarta? Comment prendre le bus Transjakarta? Rama, cek jalurnya. Tunggulah di halte bus yang benar. Siapkan uang elektronik. Kalau bingung, tanya petugas. Cek jalurnya. Tunggulah di halte bus yang benar. Siapkan uang elektronik. Kalau bingung, tanya petugas. Vérifiez le chemin. Attendez à l'arrêt de bus correct. Préparez la monnaie électronique. En cas de confusion, demandez à l'officier. Chers auditeurs, avant de terminer ce programme Apprendre l'indonésien, pour être plus clair, allons écouter encore une fois la conversation ci-dessous. Bonne écoute.
Bagaimana cara naik Transjakarta?
Cek jalurnya.
Tunggulah di halte bus yang benar. Siapkan uang elektronik. Kalau bingung, tanya petugas.
Oke, terima kasih.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. À la prochaine fois, merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Vous êtes avec moi, Audrey. Et cette fois, vous allez écouter une chanson du Kalimantan Central intitulée Mamangun Mahagaleu. Chers auditeurs, Mamangun Mahagaleu signifie un bâtiment gardant la zone. Cette chanson a été créée par Bobby Tarung. Les paroles contiennent une invitation à la communauté pour développer et protéger la zone. Par conséquent, le bien-être augmente lorsque la région est avancée. Cependant, lors du développement de la zone, la nature doit être correctement entretenue. Mon cher Jolitar, voici la chanson « Mamangun Mahagaleu » chantée par Nelvira. Bonne écoute.
Mama, Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web, www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.